Voici une question dont la réponse mettra fin à bien des discussions. Est-ce que Dieu est réellement le créateur de toutes choses? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On est rendu au psaume 23. Psaume que beaucoup de gens connaissent et auxquels plusieurs ont composé de la musique, tantôt de style classique, tantôt de style pop, rock ou country. Pour ma part, j'ai composé une musique assez contemporaine pour ce psaume. Mais ce qui est réellement important, c'est de bien comprendre ce que Dieu veut nous enseigner par ce beau psaume qu'il a inspiré à David il y a plusieurs siècles. J'imagine que la musique de David devait être très belle. J'aimerais ça pouvoir l'entendre. Mais chose certaine, c'est qu'aujourd'hui, au cours de notre émission, Dieu va nous enseigner de belles choses pour chacune de nos vies à travers ce psaume, en répondant aux questions que voici. Est-ce que Jésus est le berger de tout le monde? Est-ce que c'est vrai que ceux dont le Seigneur est le berger ne manqueront de rien? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être protégé et consolé par ce bon berger? Qu'est-ce que le psaume 23 nous enseigne quand il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Est-ce qu'une brebis du Seigneur peut être certaine que le bon berger va l'accompagner jusqu'au ciel? Est-ce que Dieu est réellement le créateur de toutes choses? Est-ce que tout lui appartient? Qui est le roi de gloire mentionné dans les psaumes? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce que les psaumes 23 et 24 disent en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, on vient à toi. On est confiant que tu vas nous enseigner aujourd'hui. On a besoin de ta parole. On veut mieux te connaître, Seigneur. Alors touche nos cœurs. Approche-nous de toi. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Le psaume 23, qui est un psaume très populaire, serait sans valeur sans le psaume 22, ce qui me fait dire que nous avons une trilogie ou un triptyque, c'est-à-dire une œuvre composée en trois parties. En effet, les psaumes 22, 23 et 24 sont les psaumes du berger et ils nous donnent un portrait du Seigneur Jésus. Au psaume 22, il est le bon berger. « Je suis le bon berger », Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Citation de Jean chapitre 10, verset 11. Ici, au psaume 23, nous voyons le grand berger. Avez-vous déjà remarqué la bénédiction à la fin de l'épître aux Hébreux? Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendent capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Citation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 20 et 21. Le psaume 23 nous révèle le grand berger. Finalement, le psaume 24 nous fait découvrir le souverain berger. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Citation de 1 Pierre chapitre 5 verset 4. Autrement dit, au psaume 22, nous avons la croix. Au psaume 23, la houlette du berger. Et au psaume 24, la couronne du roi. Le psaume 22 nous présente Christ le Sauveur. Le psaume 23, le Christ qui satisfait nos besoins, et le psaume 24, le Christ souverain. Au psaume 22, Christ pose le fondement. Au psaume 23, il se manifeste, et au psaume 24, Christ est notre attente. Dans le psaume 22, il meurt, dans le psaume 23, il vit, et dans le psaume 24, il revient. Le psaume 22 traite du passé, le psaume 23 du présent, et le 24 de l'avenir. Au psaume 22, il donne sa vie pour les brebis. Au psaume 23, il aime les brebis. Et au 24, il les éclairera lors de son retour. Ces trois psaumes nous tracent un merveilleux portrait du Seigneur Jésus. Maintenant, allons au psaume 23, probablement la portion la mieux connue de toutes les Écritures. Ce psaume fut copié, imprimé, distribué plus que tout autre extrait de la Bible. La beauté de ce psaume touche les chrétiens de toutes les confessions. Les juifs, les orthodoxes et les réformés connaissent bien le psaume 23. Beaucoup a été dit ou écrit au sujet de ce psaume, qui ne contient que 6 versets courts et simples. Quelqu'un a dit, « Peu importe si une personne en a beaucoup à dire, si elle le dit en peu de mots. » Un autre a dit, si ceux qui n'ont rien à dire s'abstenaient de parler, le monde s'en porterait mieux. Le président directeur général d'une entreprise avait placé cet écriteau bien à la vue de son bureau. « Si tu as quelque chose d'important à dire, dis-le en 5 minutes. » Il faut environ 45 secondes pour lire le psaume 23. Il est bref et concis. Ce n'est pas un langage philosophique ni théologique. Ce n'est pas un document scientifique. Le psaume 23 est sublimement simple et simplement sublime. Avant d'examiner le texte lui-même, nous devons considérer quelques items au sujet de ce psaume. Il ne fait pas de doute que David en est l'auteur. Mais l'a-t-il écrit alors qu'il était berger ou vers la fin de son règne alors qu'il était un roi âgé? Je penche du côté d'un roi âgé. David, le roi, n'a jamais oublié David, le berger. Le psaume 23 n'est pas les rêvasseries d'un jeune garçon sans expérience de la vie, mais il est plutôt le fruit d'un homme d'expérience et très mature. Vers la fin de sa vie, David a revu sa vie mouvementée avec ses hauts et ses bas, et il a composé ce psaume. Le roi, assis sur son trône, s'est rappelé le jeune berger qu'il était. Il avait reçu des coups, il avait souffert, il était devenu un vétéran de guerre qui a connu la victoire, les privations et les épreuves. Ce n'est pas un jeune garçon immature qui présente une connaissance théorique sous forme de poème. Le psaume 23 est le fruit d'un jugement mature éprouvé par une longue vie. Jésus ne devient pas votre berger avant de devenir votre sauveur. Ce psaume débute par « L'Éternel est mon berger ». Qu'est-ce qui vous permet de dire que l'Éternel est votre berger? Est-ce que ce psaume s'applique à nous tous? Je ne le crois pas. Puisque les psaumes 22, 23 et 24 présentent chacun un aspect du Seigneur Jésus, vous devez connaître Jésus comme le bon berger, comme celui qui donne sa vie pour les brebis, afin qu'il soit votre grand berger. Il faut établir une relation, de berger à brebis. Autrement dit, il ne devient pas votre berger avant de devenir votre sauveur. Chers amis, débutons notre lecture, le psaume 23, versets 1 et 2. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Notez ce texte. Mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me dirige. Ce psaume parle en il et en moi. L'accent est mis sur le fait qu'il n'y ait aucune barrière entre l'âme d'une personne et Dieu. L'Éternel est mon berger. Communion intime et personnelle. Chers amis, si l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Le premier verset est formé d'une affirmation et d'une conséquence. Premièrement, considérons l'affirmation. C'est facile de dire que le Seigneur est un berger. Beaucoup de personnes sont prêtes à affirmer cela. Mais pouvez-vous dire « L'Éternel est mon berger » ? Par son œuvre rédemptrice, le Seigneur Jésus est mort pour vos péchés et il vous invite à l'accepter comme sauveur. Si vous l'avez fait, il est votre berger. C'est facile de parler au futur et de dire que le Seigneur sera notre berger, mais David parlait au présent, « L'Éternel est mon berger ». Il fit une affirmation au présent. Maintenant, considérons la conséquence de cette affirmation. « Je ne manquerai de rien ». Notez que David ne dit pas qu'il n'a manqué de rien dans le passé, mais il parle au futur, « Je ne manquerai de rien ». De quoi ai-je besoin? Bien de protection. Je suis une brebis, un petit animal. Donc, mon berger s'assure que je sois bien protégé. Il me protège lorsque nous percevons que nous avons un berger merveilleux. Nous disons que nous ne manquerons de rien et que nous en périrons pas. Je ne manquerai de rien est une affirmation future et elle donne de l'assurance à l'enfant de Dieu. La sécurité du croyant repose sur son berger. C'est ce que nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, versets 27 et suivants. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Jean, chapitre 10, versets 27 et 28. « En plus d'être protégées, les brebis doivent avoir ce dont elles ont besoin en suffisance et d'être satisfaites. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est cela, tout avoir en suffisance. Ceux qui possèdent des brebis savent qu'une brebis affamée ne s'étendra pas sur le sol. Une brebis qui se repose a mangé à sa faim. Nous avons tout en Jésus-Christ. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. » Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean, chapitre 6, verset 35. Il me dirige près des eaux paisibles. Les brebis ne s'approchent pas des eaux turbulentes. Elles n'apprécient pas plus les eaux stagnantes. Elles ne boivent pas au même endroit que les cochons. Tout ceci s'applique à la famille humaine. Nous avons besoin de repos de nos jours, pas tant de repos physique ou mental que de repos de l'âme. Au psaume 55, verset 7, David dit, « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. » David voulait prendre un temps de repos loin de ses soucis, mais il a découvert que partir ne règle pas les problèmes. Il dut apprendre à faire confiance au Seigneur, à s'appuyer sur lui, et de compter sur lui pour agir en son temps. Le Seigneur Jésus nous fait cette invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 11, verset 28. L'invitation est lancée à vous tous. Revenons au psaume 23, lisons les versets 3 et 4. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pour la protection et la consolation, il faut suivre notre berger. Il restaure mon âme. David parlait par expérience. Il avait péché gravement. Il était devenu une brebis qui s'était éloignée du parc à moutons, et le berger a dû la retrouver et la restaurer. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il conduit, mais nous devons suivre. Voici ce que le Seigneur a dit à l'élite religieuse qui s'opposait à lui. « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père en témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jean, chapitre 10, versets 25 à 27. Les brebis suivent leur berger. C'est ainsi que nous pouvons reconnaître à qui appartient une brebis. Notre berger nous guide sur les bons sentiers. Nous n'avons qu'à le suivre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Voilà notre source de courage et de consolation. Ce verset ne parle pas seulement du moment de notre mort. Nous sommes des pèlerins sur terre et nous sommes constamment en danger de mort, en danger d'accident, de maladie. Cependant, je ne crains aucun mal. Jésus nous donne cette consolation encourageante. Si un de nos êtres chers décède alors qu'il est enfant de Dieu, voilà d'où nous tirons notre courage et notre consolation. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton servait à défendre les brebis et la houlette à les guider. Le Seigneur se sert parfois de sa houlette pour nous discipliner. Nous en avons tous besoin. Connaissez-vous la présence rassurante de Jésus dans votre vie? Versets 5 et 6. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Église est victorieuse. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, dit le psaume. Ce verset parle de victoire. Dresser une table devant ses adversaires, c'est célébrer une victoire militaire. L'Église du Seigneur est conquérante. Les portes du séjour des morts ne prévalent pas contre elle. Ce verset parle aussi de la table du Seigneur, alors que nous prenons le repas du Seigneur, en intimité avec lui. Nous célébrons notre rédemption par le sang de Christ. Nous célébrons une victoire sur le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan. Tu oins d'huile ma tête. Cette huile est une image du Saint-Esprit. Nous avons besoin de son onction, car nous ne pouvons pas affronter ce monde sans lui. Et ma coupe déborde. Ceci est le symbole de la joie. Nous avons besoin de manifester notre joie aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean chapitre 10, verset 10. Le Seigneur désire que nous soyons dans la joie. Une petite fille a dit, « Seigneur, remplis ma coupe. Elle ne peut contenir beaucoup, mais elle peut déborder beaucoup. » Nous avons besoin de chrétiens débordants de cette joie venant du Seigneur. Notre berger nous accompagne jusqu'à notre demeure céleste. Maintenant, au dernier verset, nous voyons que notre berger nous conduit des pâturages verts jusqu'à notre demeure céleste. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'expression hébraïque traduite « fin de mes jours » pourrait aussi être traduite pour l'éternité. Plusieurs traducteurs préfèrent cette deuxième option. Le Seigneur nous a promis. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Si nous ne sommes pas de brebis exceptionnelles, nous avons cependant un berger merveilleux. Pouvez-vous dire, l'Éternel est mon berger? Si oui, les promesses merveilleuses de ce psaume sont pour vous. Si Jésus est votre sauveur, ce psaume est pour vous. Maintenant, nous passons au psaume 24 qui parle du retour du souverain berger. Selon la tradition, ce psaume fut composé par David pour être chanté lorsqu'il a amené l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Ce psaume était une forme d'ancienne ou de chanson à répondre. Nous allons l'examiner selon un arrangement possible suggéré par des érudits. Le psaume est formé de deux parties. Les versets de 1 à 6 parlent de ceux qui entrent dans le royaume, et les versets 7 à 10 du retour du roi. Chers amis, débutons la lecture de cet autre psaume, le 24e, les versets 1 et 2. Psaume de David. La chorale, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Dieu est le Créateur et tout lui appartient. À l'Éternel la terre. David affirme que Dieu est le Créateur, la terre lui appartient. Elle n'appartient pas au grand de ce monde, elle n'appartient pas à un gouvernement ou à un chef d'État. Tous veulent gouverner la terre, mais elle appartient à Dieu. Il en est le grand propriétaire. Car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Le troisième jour de la création, Dieu dit, « Que les eaux, qui sont au-dessous du ciel, se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. » Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec « terre », et il appela l'amas des eaux « mer ». Dieu vit que cela était bon. Genèse, chapitre 1, versets 9 et 10. Lorsque Dieu a rassemblé les eaux, la terre émergea de l'eau. Qui a fermé la mer avec des portes? Quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement, et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi, et que je lui ai mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Citation de Job, chapitre 38, versets 8 à 11. C'est Dieu qui maintient sa création en place. Les hommes, dont la philosophie nourrit l'athéisme, sont dans l'erreur autant sur le plan scientifique que sur le plan spirituel. Il est possible de parler des lois de la nature, mais si par celles-ci nous entendons plus que les principes selon lesquels Dieu gouverne sa création, alors nous sommes des athées. Si nous croyons que les lois de la nature fonctionnent sans Dieu et que l'univers existe par elle-même, alors nous sommes des athées. La création nécessite un créateur, et la providence nécessite que le créateur gère sa création. Dieu est le créateur de l'univers. Oui, chers amis, si nous ne voulons pas retomber dans le paganisme, il ne faut pas oublier cette vérité fondamentale. Dieu n'a pas créé le monde pour la gloire d'une race, d'un groupe ou d'un homme. Il l'a créé pour lui. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Citation de Romains, chapitre 11, verset 36. Poursuivons notre lecture, verset 3 du psaume 24. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est pour y répondre que Dieu pose la question. Verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. D'après cette réponse, je ne pourrai y aller, mais j'y serai parce que je suis identifié à Jésus-Christ. C'est lui qui me conduit au trône de la grâce en exerçant ses fonctions de prêtre parce que je suis venu à lui afin qu'il me sauve. Versets 5 et 6. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Pause. Imaginez la procession qui entre en chantant Jérusalem avec l'Arche de l'Alliance. Verset 7. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? Quelqu'un s'écrie, demande, « Qui est ce roi de gloire? » La chorale répond, versets 8 et 9, « Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. » Une autre personne s'écrie, demande, « Qui est ce roi de gloire? » De nouveau, la chorale répond, au verset 10, « Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. » Pause. Ce psaume se termine par le petit mot « pause », un rappel à prendre une pause pour méditer cette grande vérité. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant les psaumes 25 et 26.
Merci, Régent. J'aime tellement la fin du psaume 23. Il dit, Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Mes amis, Réjean nous a mentionné que l'expression hébraïque « fin de mes jours » pourrait être aussi traduite par « éternité ». Quand je pense que je vais habiter dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu pour l'éternité, quelle joie! Je peux réellement dire avec David que le bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie. Mes amis, est-ce que vous êtes heureux? Réellement heureux? Je ne vous dis pas que je n'ai jamais d'épreuve, mais tout ce que j'ai à faire quand je suis au beau milieu d'une épreuve, c'est de tourner mes regards vers le bon berger du psaume 23. Parce qu'il est mon berger. Comme Réjean l'a mentionné aujourd'hui, quand Jésus devient notre sauveur personnel, il devient aussi notre berger. Et dans le psaume 34, au verset 6, David nous dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et je peux vous dire que jusqu'à l'âge de 30 ans, j'avais de quoi avoir le visage couvert de honte à cause de ma vie de péché. Mais Dieu a placé quelqu'un sur mon chemin pour me dire que Dieu voulait enlever ma honte, qu'il voulait me pardonner, me gracier complètement. Et tout ce que j'ai eu à faire a été de reconnaître ma culpabilité devant Dieu et de placer ma confiance entièrement en Jésus seul pour le pardon de mes péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Mon ami, réalises-tu que c'est pour toi personnellement que Jésus, le bon berger, est mort sur la croix. Il a payé ta dette en entier. Il a pris ta honte sur lui. Il a pris ma honte sur lui. Et maintenant, tout comme il l'a fait pour moi, il y a déjà plusieurs années, Jésus, le bon berger, se tient à ta porte et il frappe. Il dit que si tu entends sa voix et que si tu ouvres la porte, il va entrer chez toi. Il va faire sa demeure chez toi. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, versets 27 et 28, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Mon ami, laisse Jésus devenir ton berger. Il a payé bien cher pour le devenir. Et toi, tu n'as rien à payer. Tu n'as qu'à le reconnaître comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle, et il va le faire, et tu vas vivre éternellement.
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste.
Qu'est-ce qu'on apprend, Réjean, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique À travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondues à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors, on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule.
Ah,
pour en faire
compliqué.
La correction, parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone
1-877-LESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel
www.radioespoir.ca. Adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.